Liste des ministres de Monsieur le Premier ministre Villepin. Voici la liste des ministres qui ont été retenus sous réserve de confirmation du Premier ministre et de confirmation du Président de la République, Monsieur Jacques Chirac. Ministre de l'Intérieur, Monsieur Patrick Balkany. Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Monsieur Alain Juppé. Ministre de l'Économie, Monsieur Antoine Seyer. Ministre des Affaires étrangères, Monsieur Didier Julia. Ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Nicolas Sarkozy. Secrétaire d'État chargé de l'instruction scolaire, Monsieur Patrick Sébastien. Secrétaire d'État chargé de la jeunesse et des sports, Monsieur Jean-Claude Gaudin. Ministre de la Culture et de la Communication, Monsieur Jean-Philippe Smet. Ministre de la Défense, Madame Roselyne Bachelot. Secrétaire d'État chargée des anciens combattants, Madame Michèle Alliot-Marie. Ministre chargé de la cohésion sociale, Monsieur Alain Madelin. Ministre du Logement, Monsieur Hervé Guémard. Ministre de la Santé et de la Prévention des canicules, Monsieur Jean-François Mattei. Ministre des Transports, Monsieur Alain Prost. Ministre de l'Agriculture et de la Pêche, Monsieur Luc Ferry, ministre chargé de la réforme de l'État, Monsieur Jean Tiberi, ministre de l'Environnement, Monsieur Thierry Desmarais, secrétaire d'État chargé de l'intégration, Monsieur Charles Millon, ministre chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Monsieur Raymond Barre.
Ouais, merci les Hollandais, bravo, bravo, bravo. Alors là, je suis très, très content. Et j'aimerais savoir si on va dire de vous ce qui a été fait pour le peuple français, que vous êtes des inconscients, des irresponsables ou que sais-je encore, ou va-t-on enfin reconnaître que toutes les personnes qui savent lire et réfléchir ont rejeté le texte néfaste de la fausse constitution européenne, texte néfaste parce que dangereux pour les libertés individuelles et l'équilibre social en Europe. Ce résultat, comme celui du référendum français, moi, me fait réfléchir sur un truc, et j'aimerais bien que les médias en parlent un peu. Quelle est la valeur d'une ratification parlementaire, puisque dans les deux cas, le traité aurait obtenu une large proportion d'opinions favorables? Et que faire d'un référendum comme celui qui a eu lieu en Espagne, où la participation était nulle? Franchement, faut réfléchir un peu, avant de traiter les gens d'idiots. Merci les Hollandais, je suis très très content. Un petit mot à Monsieur de Villepin. Vous pensez que seul le chômage jette un trouble dans les esprits des Français et vous donnez 100 jours pour regagner notre confiance avec les méthodes qu'on connaît. Alors vous n'aurez pas besoin de défaire vos valises après vos vacances parce que l'automne risque d'être chaud à ce rythme-là. Allez, ciao, bye bye.
Oh, bonsoir, c'est Patrick de Bruxelles, voilà, en deuxième nom. La Hollande a dit non à 63% avec une participation de 62%. Je ne sais pas si ça s'est déjà vu en Hollande, une telle participation. Alors en ce qui me concerne, jusqu'à présent, il y a un pays qui a dit oui, c'est l'Espagne, et deux pays qui ont dit non, la France et la Hollande. Pour les autres pays qui ont dit oui, sans avoir organisé de référendum, pour moi, ils ne valent absolument rien et ne représentent probablement pas du tout la position des populations de ces pays-là. Voilà, donc il y a un pays qui a dit oui et deux pays qui ont dit non. Voilà, au revoir.
La défaite. Les 100 jours, Sainte-Hélène, courage Dominique, t'en as plus pour longtemps. Salut, c'était Louis, un vrai cible.
Tu votes pas, ça change pas. Tu votes, ça change pas. Tu votes, tu fais voter, ça change pas. La démocratie, c'est ça. Tu votes, tu gagnes, ça change pas. Va falloir inventer autre chose, hein.
Bonjour Daniel, j'ai pris un peu de recul avant de vous appeler, c'est Morissette du 14e. Merci pour tous ces témoignages d'auditeurs, je les ai tous aimés, ceux de la colère, du trop-plein, des larmes, de l'humour. Ce sont eux qui me rappellent ma fierté d'appartenir à ce peuple, tant méprisé par toute cette clique d'imbéciles, d'intellos et de la fausse gauche oui-ouiste, celle qui donne des leçons et qui n'a toujours pas compris que sans nous, elle n'existe pas. Sans notre travail et sans nos votes, ils ne sont rien. La France du non doit leur tenir tête et savoir leur dire merde quand l'occasion lui est donnée. La vérité est leur côté obscur, le mensonge, leur côté éclairé. Et nous, nous avons su faire la différence. Salut Daniel, à très bientôt et vive la France du non.
Allô, salut Mermet et ton équipe, ici Yann de l'Ardèche. Bon, alors ça y est, maintenant on a un nouveau Premier ministre, avec Sarko en prime. Bravo. Bon, alors là, c'est 100 jours contre le chômage. Mais qu'on arrête de nous raconter des carabistouilles. Le chômage, mais c'est utile au capitalisme. C'est dans la logique du capitalisme. Ça les arrange tous, ces cacapipitalistes. Le plein emploi, c'est nuisible au profit. Si tout le monde a du boulot, eh bien tout le monde peut revendiquer. Tandis qu'avec le chômage, eh bien tout le monde a la trouille. Tout le monde a peur de demander de se faire virer, etc. La grande stratégie du capitalisme, la stratégie logique, c'est d'organiser l'incertitude, que tout le monde ait peur, tout le monde ait peur du lendemain, que personne ne sache. Quand on ne sait pas ce qu'on va mettre dans son assiette, comment on va payer son loyer, ses traites, ben on a peur et on ferme sa gueule. Et c'est ça la grande logique, la grande stratégie du capitalisme. Le profit n'aime pas le plein emploi. D'ailleurs, Pompidou l'a bien dit il y a une trentaine d'années, hein, à l'époque justement du plein emploi, qu'il fallait réintroduire le chômage pour faire baisser les salaires. Ça a été dit. Il faudrait qu'on trouve ça dans les archives. Hein, Mermet, si t'as ça dans les archives, là, à l'INA, il faudrait le rediffuser. Bon, alors, qu'on arrête de nous casser les oreilles. Hein, tous ces gens qui veulent lutter contre le chômage depuis 20 ans, 30 ans et qui ne font rien. La preuve. Allez, salut. À la prochaine.
Voilà, amis de la démagogie et du populisme, bonjour. Vous écoutez le répondeur de là-bas, si j'y suis, le rendez-vous des moutons noirs xénophobes au 01 56 40 37 37. Hier, nous avons rendu hommage à une prostituée. Aujourd'hui, les enragés. Les jeunes sauvageons enragés, les jeunes lycéens qui ont fait ce printemps lycéen et qui aujourd'hui passent à la caisse. Il y a un certain nombre de ces agités, ces jeunes énergumènes qui passent en justice et qui sont condamnés à de lourdes peines. Tout au cours du printemps, Olivia, j'espère, les a suivis, ces petits jeunots excités, et on va revenir sur ce printemps, un printemps lycéen dans là-bas, si j'y suis, c'est aujourd'hui. Mais auparavant, d'autres messages sur le répondeur populiste et xénophobe, le 01 56 40 37 37.
Salut, c'est Manu dans le Finistère, au bout du monde, puisque on a voté non jusqu'au bout du monde. J'ai une modeste proposition pour sauver l'élite qui se délite. Voilà, je me dis qu'on pourrait aligner tous les loyers sur les prix pratiqués à Paris, 66% pour le oui, ou à Neuilly, 82,44% pour le oui, et ainsi ne voteraient que des gens intelligent, sensé, raisonnable, ouvert, moderne. Voilà. Ciao.
Alors, ce matin, j'ai entendu Michel Camdessus à la radio, là. Et malheureusement, une question du journaliste n'est pas passée à l'antenne. Alors, voilà, je vous transmets la question et puis peut-être que vous comprendrez pourquoi cette question n'est pas passée. Donc, voilà. Monsieur Michel Camdessus, vous avez, quand vous étiez directeur du FMI, vous avez imposé un certain nombre de réformes structurelles à des pays en voie de développement pour aider leur économie à sortir du gouffre et de la crise. Aucune de ces réformes n'a fonctionné. En particulier, pendant la crise asiatique, le pays qui s'en est le mieux sorti, c'est la Malaisie. Et ce pays avait refusé d'appliquer les plans structurels que vous vouliez lui imposer en mettant une taxe à la sortie des capitaux de la Malaisie. Monsieur Camdessus, face à ces échecs répétés de vos conseils et de vos injonctions obligatoires pour ces pays-là, comment comprenez-vous que vous puissiez encore proposer des conseils à un pays riche comme la France, sachant qu'aucun de ces conseils jusqu'à présent n'a jamais fonctionné? Voilà, donc voilà, j'ai réparé la petite bêtise là du gars qui avait coupé la question, je sais pas pourquoi. Hein. Et puis ben peut-être qu'on aura la réponse de Michel Kahn dessus, un de ces quatre, hein, savoir pourquoi après avoir fait autant de conneries, il peut encore continuer à donner des conseils. Moi je vois que les gens quand ils font des conneries dans des entreprises ou dans des écoles, ils se font virer. Kanao.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis avec Olivia Gesbert, le printemps des lycéens.
Flight number two, arriving.
Jean, c'est à quelle heure le truc des lycéens sans pape là?
Pauline Salingue, on se connaît déjà, tu es membre de la coordination lycéenne. Et là, on est devant le TGI ou l'annexe du TGI de Pontoise à Cergy. Ce qu'il faut expliquer que le procès d'aujourd'hui est quand même inscrit dans une série de procès qui a commencé. C'est un peu la deuxième phase du mouvement lycéen.
C'est les suites, c'est ce qu'on risquait, on savait depuis le début. Hein. Ils avaient décidé, à partir du vote de la loi le 25 mars, de casser le mouvement, de tuer le mouvement. Pour ça, la meilleure solution, c'est de taper sur des individus assez durement. Là, il y a Samuel qui vient d'avoir son jugement, qui est donc 5 mois avec sursis et 500 euros d'amende pour un soi-disant crachat. Donc qu'est-ce qui pourrait être plus explicite pour montrer que c'est le mouvement qui est jugé aujourd'hui? Pas grand-chose. On peut s'attendre à de la prison ferme pour les procès à venir.
Et ça veut dire quoi pour toi juger le mouvement lycéen?
Juger le mouvement lycéen, c'est une première, j'ai envie de dire, ce qui se passe là. Au niveau, au moins pour les jeunes, même si ça a eu dans plusieurs mouvements sociaux pour les faucheurs d'OGM, etc., c'est de juger des individus, non pas pour ce qu'ils ont commis, mais pour leur participation à un mouvement social. C'est pas les 9 personnes qui sont mises en examen pour l'occupation de l'annexe du ministère. C'est
dont toi.
C'est pas qu'ils ont commis des faits particuliers ce jour-là, mais c'est qu'ils sont impliqués dans le mouvement depuis le début. Et ça, la police, la justice le savent très bien.
La question référendaire a monopolisé toute l'énergie citoyenne et a fait passer nombre de sujets, nombre de préoccupations au second plan. Et après tout, c'est peut-être pas plus mal pour certains sujets. On a vu apparaître la fracture médiatique pour un large public, de plus en plus large. La défiance envers les médias se renforce. Les médias partenaires officiels du oui, comme le disait un auditeur. Et c'est vrai que vous êtes de plus en plus nombreux à percevoir les ficelles, les leurres médiatiques, les opérations de diversion, les mises en scène de faux antagonismes et de faux conflits, un petit peu comme jadis ces matchs de catch truqués à l'Élysée-Montmartre. C'était pas l'Élysée, c'était l'Élysée-Montmartre. Mais il y a certains sujets qui sont passés à la trappe ou au deuxième plan, et c'est parfois un peu dommage, comme l'histoire de ce printemps lycéen. Cette jeune fille, Pauline le disait à l'instant, évoquait à l'instant ce qui se passe, c'est-à-dire qu'une quarantaine de ces lycéens passent à la caisse, ils sont poursuivis en justice, ils ont été interpellés dans les manifestations, et les peines sont extrêmement lourdes. La LDH, juge disproportionnées les peines qui sont appliquées, rappelant que les manifs lycéennes faisaient suite aux lois Fillon votées dans l'urgence et sans concertation. Et il faut effectivement dire que jamais un mouvement lycéen n'a connu une telle issue, même en 68. Même en 68, les parents, parfois même bientôt les grands-parents de ces lycéens, n'ont pas eu à affronter les tribunaux alors que occupation, déprédation étaient monnaie courante. Donc on peut se poser des questions quant à cette suite de la criminalisation de l'engagement politique, des mouvements sociaux dans notre beau pays. C'est une question qu'on peut quand même se poser. Et puis une autre, c'est la judiciarisation des rapports sociaux. Alors c'est des termes un petit peu malins et trop malins et trop ampoulés évidemment, et intimidants en tout cas, mais enfin c'est quand même assez intriguant de voir que on n'est plus capable de débattre, on va directement au tribunal. Ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire que il y a effectivement une élite qui dédaigne le débat, ou bien qui est impuissante à débattre, ce qui pourrait montrer une certaine faiblesse. Ce genre de questions, eh bien, agitent les lycéens, les jeunes, ce qu'on appelait autrefois les enragés, qui ont continué le combat. Et depuis le début avril, Olivia suit ce mouvement, est avec les lycéens à Paris, dans le 9-3 aussi, à Clichy-sous-Bois, un peu partout. Et on va revenir sur ce printemps lycéen, dans la basse, si j'y suis, jusqu'à 18h sur France Inter.
Un objectif, tout comme trois, un but ne mange pas sans savoir où aller, tous les chemins sont piégés, restez tout le temps attentif, pour ne pas se retrouver dans une situation que t'as pas vu arriver, au maximum faut gérer le bac pour rester actif, ne pas rester à végéter, on n'a pas le temps de somnoler, on ne voit pas le temps passer, on ne va pas rester passif, à attendre que l'opportunité puisse en faire se présenter, à nous d'aller la chercher, qu'est-ce qui peut nous arrêter quand on est motivé comme ça, nous la pâte à peine froid, rapapam, qui est-ce qui peut nous enlever cette rêve qu'on a le bon cas, pour l'oreille qui fada. Les choses se passent en restant à sa place. Faut faire quelque chose avant que les choses se passent. Il faut défendre ses idées. À aucun prix les lâcher. Travailler jusqu'à ce qu'elles soient concrétisées. Laissez les gens en parler. Ils ne vont pas t'aider à réaliser tes projets. Donne-toi les moyens d'y arriver. Aie confiance en toi et fonce pas tête baissée. Redresse-toi pour affronter tout obstacle. Viens rosé, tiens posé. Yo, qu'est-ce qui peut nous arrêter quand on est motivé comme ça? Nous la passe à peine froid. Moi, papa, qui est-ce qui peut nous enlever cette race qu'on a des bons gens? Pour l'homme qui parle, hey.
Toi, Pauline, t'en es où en ce moment? T'es mise en examen?
Ouais, je suis mise en examen pour l'occupation de l'annexe. Donc les procès auront a priori lieu dans un an et demi. Et je suis mise en examen, enfin, ou convoquée du moins, pour l'occupation du lycée de Montagne.
On a entendu que plusieurs gardes à vue sont assez mal passées, ça a été ton cas?
Bah ouais, bah la première nuit je me suis fait interroger 5 fois, je me suis pris des baffes. Après c'était pas non plus si horrible que ça, c'était pas la torture, mais c'est vrai que quand on a 18 ans, passer 48 heures dans des conditions pareilles, se retrouver en cellule avec des gens qui ont été attrapés avec 6 kilos de cocaïne, des gens qui sont complètement délirants, etc., c'est quelque chose de pas évident. Au dépôt, on a eu la fouille à nu. Tous ceux qui ont été mis en examen ont eu le droit à ça. À la Goutte d'Or, au commissariat, ils se sont fait interroger avec un policier qui tournait un club de golf au-dessus de leur tête. Là, on a affaire à deux types de répression maintenant, qui sont la répression administrative, parce qu'il y a plein d'élèves qui sont exclus de leurs établissements, de l'Académie de Paris, des académies environnantes, et répression judiciaire policière. C'est-à-dire que maintenant, on passe tous en procès les uns après les autres, et c'est pour ça qu'on a monté un collectif de soutien, parce qu'on estime qu'on se doit être solidaires les uns des autres, et que là, c'est pas Samuel, c'est pas moi qui suis à me juger, c'est le mouvement.
Tu penses qu'en partie, ils ont gagné, que le mouvement lycéen, il est cassé?
Je pense que ça a contribué à faire qu'il s'arrête, mais qui a surtout fait que le mouvement lycéen là aujourd'hui est beaucoup beaucoup moins massif que ce qu'il était il y a 4 mois, c'est que tout simplement passer 3 mois à lutter tout seul, c'est du jamais vu dans l'histoire, des lycéens qui passent 3 mois en grève à lutter, à faire 2 manifestations par semaine sans aucune réponse du gouvernement. C'est ça qui a été très dur, mais en même temps les gens, les discussions qu'on peut avoir quand on voit le niveau où ça en a aujourd'hui, c'est qu'à la rentrée ça peut être explosif, au mois de septembre ça peut être explosif, et notamment sur la question de la répression, parce que la répression ça mobilise aujourd'hui.
La dernière chose, quand on s'est vu il y a 2 mois, 1 mois et demi, tu me disais tout ce que tu avais appris pendant ce mouvement là il y a autre chose que tu as appris là maintenant depuis 1 mois et demi, depuis qu'on s'est vu?
Déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a toute une génération militante qui vient de se former. On a tous fait la grosse fête dimanche soir au moment du résultat de la constitution, parce qu'on avait vraiment d'avoir gagné quelque chose, d'avoir au moins gagné ça.
Et là, si je te dis printemps lycéen, qu'est-ce qui te reste comme flash?
Oh, les manifs, les occupations, les soirées, les occupations de nuit dans les lycées, parce que c'était vraiment une super ambiance. Mmh. Ouais, c'est 3 mois qui ont vraiment été une bonne expérience, quoi. Et les gens se sont politisés à une vitesse grandiose, quoi.
Et par exemple, c'est toi qui m'avais parlé de Sabrina dans le 93 au lycée Nobel, ça a aussi fait des ponts, notamment j'imagine entre des quartiers, des milieux qui ne se connaissaient pas forcément.
Des milieux entre les lycées bourgeois du centre de Paris, les lycées de banlieue, que ce soit Nanterre ou Saint-Denis. Enfin, ça c'est déjà une bonne réponse à tout ce qu'on entend sur le 8 mars, les méchants, du racisme anti-blanc, etc. C'est tous ensemble maintenant qu'on dit que ce truc-là c'était pas vrai. C'est bien la preuve, c'est qu'aujourd'hui on lutte ensemble. Ouais, ça a créé des liens qui n'existaient pas auparavant.
C'est depuis longtemps, la vraie science politique s'apprend dans la lutte et dans la rue, et on le voit en écoutant, en tout cas, Pauline, le combat continue. Le combat contre quoi? Eh bien là, c'était contre la loi Fillon, qui a d'ailleurs été adoptée le 24 mars, mais avec le recul aujourd'hui, on peut voir dans ce printemps lycéen autant de signes avant-coureurs du non de dimanche, car le projet de loi Fillon, enfin la loi Fillon en matière d'éducation, va orienter l'école vers l'Europe et l'entreprise. Les objectifs de cette loi ont été dictés et imposés par l'Europe. C'est comme ça que cette loi a été présentée comme un système éducatif conforme aux besoins économiques de la France, avec l'instauration d'une culture du résultat. Alors évidemment, face à des termes pareils, il n'a pas manqué de lycéens et d'enseignants pour dénoncer la marchandisation de l'école, l'Europe libérale aux commandes de l'école, pour dire et répéter que l'école n'est pas une entreprise, pas plus qu'une marchandise, et de dire que depuis Jules Ferry, jamais la pédagogie n'avait autant cédé le pas à la culture entrepreneuriale. On voit que, comme pour le référendum, entre une lecture, une interprétation au mot à mot de la loi et le contexte, entre le texte et le contexte, on a trouvé les mêmes oppositions, les mêmes rapports et un refus, au fond, de la marchandisation de l'enseignement et de la pédagogie, même si tout ça n'était pas forcément précisément dans la loi. C'est le même phénomène de refus, et on peut dire que ce printemps lycéen avait été le signe avant-coureur du non au référendum. On remonte en arrière, on est le 6 avril 2005, on est à Nanterre, au lycée de Nanterre, avec la jeune fille qu'on vient de rencontrer, Pauline.
Pauline Salin, qu'est-ce que tu fais? T'es lycéenne?
Ouais, je suis en terminale S. Terminale scientifique au lycée Joliot-Curie à Nanterre, 92. Ben moi, en fait, les mobilisations lycéennes, j'ai commencé en seconde quand j'étais en Bretagne, à Rennes. Il y a un lycée public en fait qui devait fermer. Donc on a monté un comité d'action lycéen sur la ville.
On était une dizaine au début. On a réussi à organiser des grosses manifestations pour une ville comme Rennes de 3 à 4 000 lycéens, ce qui était plutôt pas mal. Ensuite, avec les manifs là, contre Le Pen, et puis cette année, donc, ça découlait de la lutte qu'on mène avec un certain groupe de personnes depuis maintenant quelques années. Il y aura des gros bilans, quelle qu'en soit l'issue, à tirer de ce mouvement, parce que ça doit nous apprendre beaucoup de choses pour la suite. Déjà qu'on est face à un gouvernement très dur, ça peut peut-être pas être paradoxal ce que je veux dire, mais qui peut pas céder là-dessus. Parce que s'il lâche ça, c'est fini pour lui, quoi. Mais depuis 3 ans, il y a eu tous les secteurs différents sont mis en grève, que ce soit SNCF, la recherche, les profs, salariés du public, du privé, j'en passe des meilleurs. Aujourd'hui, la seule manière de gagner, c'est ça, de faire descendre tous ces gens-là en même temps dans la rue et que tout le monde se mette en grève, de manière générale, quoi. En deux mots, c'est ça vers quoi on pousse. Par exemple, on voit des lycéens qui se mobilisaient pas avant, qu'on avait rien à foutre, qui regardaient Love Story et la Starac, qui maintenant se retrouvent avec un mégaphone debout sur une table à motiver d'autres gens. Le blocage, là, les 10 jours de blocage qu'on a fait à Joliou, mais ça... Moi, je crois que c'est, ouais, depuis toute ma vie, depuis que je suis née, c'est le truc qui m'a vraiment le plus marqué et qui restera la meilleure expérience de lutte que j'ai jamais eue. Au début de l'année, j'étais toute seule à diffuser des tracts sur mon lycée. Et là, le premier jour, on a fait le blocage, on avait fait une assemblée générale la veille. On était 80 à 6h30 du matin. Enfin, le changement de rapport entre les profs et les élèves, les profs qui nous soutenaient, on s'est retrouvés à se tutoyer avec des profs, à aller faire les courses ensemble, à faire la fête ensemble le soir. Et ça montre vraiment que autre chose est possible, quoi, que ce qu'on nous dit. Et quoi qu'il se passe, quel que soit le résultat de notre mouvement, ça aura formé une génération de militants. Étant donné ce qu'ils auront vécu là pendant ces semaines, c'est pas quelque chose qui s'efface, c'est pas possible. Le malaise, il est fondé, hein, il a des vraies bases. Le malaise, c'est aujourd'hui la politique de répression qui est de plus en plus développée. C'est de voir la place que tient l'éducation aujourd'hui, de voir que même avec des diplômes, on trouvera pas de travail, qu'on sera en galère. Ça crée un malaise. Mais c'est pas un malaise, on sait pas trop pourquoi, ça va pas très bien, la crise d'adolescence, c'est pas ça.
Moi, plaisir, dis-moi que t'as rencontré l'homme de ta vie pendant cette...
J'ai pas rencontré l'homme de ma vie, non, raté. Il y a des couples qui se sont formés, hein, mais moi j'ai pas rencontré l'homme de ma vie. De toute façon, je ne crois pas rencontrer l'homme de ma vie, je ne crois pas en l'existence. Du prince charmant, voilà.
T'as écrit quoi sur ta banderole, sur ton petit brassard que t'as autour
d'elle? Nanterre en lutte.
C'est quoi?
Nanterre en lutte.
Toute la journée?
Ouais, je le garde maintenant, ça me plaît bien.
Et après, ce sera quoi? Donc après fac?
Sociologie.
Nanterre?
Non, Saint-Denis.
À quel âge?
18 ans. On m'a dit, ouais, demain matin, 7h30, blocus. Ce matin, on s'est retrouvé une dizaine. Bon, on s'est retrouvé avec une chaîne et un cadenas dans les mains, on était 3.
Ils ont fait, bon, vous mettez les chaînes, t'as votre tour. Bon, d'accord, 2 secondes, je pose mon sac.
Laurent et Georges ont décidé de mettre les chaînes. Moi, j'avais le cadenas dans la main, j'étais à quoi? Il me restait une poussée de cadenas et je fermais le cadenas.
Serge, il a ouvert la porte.
Et il n'y a plus de chaîne.
Et après, il y a la profiteur, il y a tout le gratin qui est sorti. Et...
Les gros petits speeches habituels, genre oui, mais la loi est passée de toute façon, ça ne sert plus à rien, mais dénoncez-vous, vous n'avez aucun courage.
En photo, appelez vos parents, vous êtes manipulés sur le même discours.
Vous êtes des moutons, vous suivez le mouvement, vous savez pas de quoi ça parle. Dès y réfléchir, on sert à rien, on sert à rien faire, on fait ça juste, entre guillemets, fait de mode. C'est la mode de faire des mouvements lycéens, allez, on suit.
Je serais pour un communisme sans dictature. Voilà, oui, mais c'est trop difficile. Donc,
De toute façon, même quand on dit communisme, les gens font l'amalgame avec les RSS. C'est vrai que... Enfin, et je pense que ça va encore durer longtemps parce que c'était quand même un horrible tournant de
l'histoire. Et là, on soutient notre cause. Notre cause, c'est quoi? Que les gens travaillent dur pour avoir notre bac. On veut que quand on a notre bac, il nous sert à quelque chose. C'est pas un anneau de bac, on le range à la poubelle et on va faire le trottoir, non?
C'est vrai, vous avez déjà entendu ça quelque part dans votre jeunesse, dans les années 60, dans les années 70, dans les années 80, des phrases comme ça, vous les avez prononcées, vous les avez entendues autour de vous, sauf peut-être qu'aujourd'hui, le malaise de ces lycéens, il est peut-être en effet dans le chômage, sait-on jamais. Il faut rappeler, justement, puisque ça va être ça la grande affaire. Vous avez compris que c'est formidable, là, le chômage va baisser d'ici à 100 jours. Donc là, cette fois, enfin, on est tranquille. Et les jeunes vont donc voir le taux de chômage baisser. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, pour les 15-25 ans, le taux de chômage est de 23,3%. Au niveau européen, la moyenne, l'Europe, notre Europe, avec 20 millions de chômeurs, au niveau européen, la moyenne du taux de chômage des jeunes est de 19,2%. En Irlande, il est de 8%. En Pologne, il est de 36,4%. Voilà ce qui peut-être, sait-on jamais, expliquer le malaise de ces jeunes lycéens qui se sont agités au printemps en France. Alors là, on va dans un autre coin, on va dans le 9-3, on va à Clichy-sous-Bois, un petit coin de banlieue assez éloigné de Paris par le temps qu'il faut pour y aller, mais pas du tout par la distance. Je crois que c'est à une dizaine de kilomètres de Paris, mais ça a l'air d'être tout à fait un autre monde, un de ces mondes qu'on appelle banlieue sensible, zone sensible, etc., etc., on connaît. Et là, il y a une jeune fille qui est devenue la passionnariat de ce printemps lycéen. Elle s'appelle Sabrina, elle est élève en terminale L au lycée Nobel de Clichy-sous-Bois, et on la retrouve, Olivia la retrouve, ce 7 avril dernier.
Ça, c'est une AG pour faire un peu un point sur la mobilisation.
Dans Paris-Barbus.
C'est quoi, c'est à Clichy, hein, ça.
On est actuellement à la Forestière, plus précisément.
On n'a pas trouvé d'autre lieu pour parler, voilà. On est dans un stade.
Je vous le rappelle, les 5 points pour lesquels on lutte pour le retrait de la réforme. Donc, premièrement, comme on l'avait dit à l'AG, à ceux qui étaient là, c'est par 93, il y a la bourse mérite qui ne va pas. Avant, vous saviez bien, on vous donnait une bourse en fonction du revenu de vos parents. Là maintenant, ils vont installer un truc en gros qu'on appelle la bourse au mérite, ce qui veut dire que les élèves méritants, ceux qui ont des bonnes notes, toucheront la bourse, les autres, tant pis pour leur tête. Deuxièmement, l'année prochaine, il va y avoir 5000 emplois qui vont être supprimés. On manque d'effectifs au lycée Alfred Nobel, bon, dans pas mal de lycées ZEP aussi. Pour ce qui est du collège, ceux qui ne savent pas aussi, les collégiens aussi vont être touchés, c'est pour ça qu'on avait demandé aux collégiens, le jour où on avait fait la manif de ville, de nous suivre. Il y a les collégiens qui vont d'abord passer dans les ateliers, donc des BEP, apprendre le maniement des machines, pour après faire 2 à 3 semaines en entreprise, nous payer bien sûr. Pourquoi? Parce qu'on manque de main d'œuvre, donc ils viennent les chercher ici, en ZEP. Donc ça nous pose problème, on aimerait bien encore choisir notre école et notre filière. Et enfin, ce qui nous pose le plus de problèmes, c'est le bac régional. Avant, pour certaines villes comme Clichy-sous-Bois, l'école, c'est quand même un moyen de s'en sortir et de trouver un bon métier et d'avoir un bon statut après. Là, maintenant, ce qu'ils veulent faire, c'est faire un bac régional. Donc, en gros, pour votre bac, il va être ghettoisé, ce qui veut dire que... Ghettoisé, ouais. En gros, votre bac, il va valoir une cacahuète à côté d'un bac parisien. Pourquoi? Parce que vous êtes en Z. Et sous prétexte que vous êtes en Z, vous êtes censé être un peu, moins intelligent que les Parisiens.
Je m'appelle Hicham, j'ai 16 ans, je suis au lycée Alfred Nobel à Clichy-sous-Bois. Je suis en seconde. J'ai commencé à m'engager au mois de janvier. Je me suis dit que nous, les élèves du 93, nous sommes les plus concernés. Nous, les élèves de banlieue en général, je veux dire, nous sommes les plus concernés et fallait se bouger. Et donc, nous, personnellement, nos profs ont dû lâcher après 3 mois de grève, nous, on ne lâchera pas. Parce que nous, déjà, on n'est pas salariés, on n'est pas payés. Donc, malgré qu'on ait raté des cours, les cours, ça se rattrape. Mais nous, on ne lâchera pas du tout, quoi. Ma mère, elle coupera assez mon point de vue, mais bon, elle n'est pas trop d'accord pour que je rate les cours. Mais comme je le rattrape d'un côté,
Elle, elle était engagée aussi, sa vie, dans son passé.
Ma mère, non, elle n'a pas trop pu parce que la répression en Algérie, ça faisait, c'était assez violente. Mais elle trouve que c'est bien d'un côté. Parce que je commence à m'engager, si j'ai un problème en entreprise plus tard, je saurai comment m'y prendre. Donc voilà. Syndiqué, je sais pas, mais bon. Depuis le début du mouvement, j'ai des idées qui se réveillent en moi, j'ai certaines envies. Comme quoi, je pousse un petit peu trop loin en disant une insurrection armée, mais bon. En fait, M. François Fillon a fait une erreur. C'est qu'il a poussé la plupart des jeunes vers le communisme extrême. Donc, c'est un bon point pour nous. Mais, voilà. On l'oubliera pas en 2007. En banlieue, ouais, les gens commencent à se politiser. Surtout les jeunes. Par les tractages, par tout ça. Donc,
Et toi, tu vois un parti politique où tu pourrais t'engager par la suite?
Oui, mais bon.
Non, tu vois.
Moi, je serais, je sais pas, lutte ouvrière peut-être. Bah, je lis leur journal, déjà. Je me retrouve dans leurs idées marxistes, mais ça va pas plus loin. Peut-être qu'un jour, peut-être, mais. Ouais, je cherche encore, mais non.
On va aller écouter un peu.
Il y a des actions de prévues. Demain, on est vendredi. Vendredi, il y a une manif sur Paris. Le départ, il est à 14h. Le départ de la manif, il est à 14h. Maintenant, on demande au lycée du 93. Donc, Nobel aussi. Si on peut y être à 13h à la République, c'est génial. Pourquoi? Parce qu'on va encore se placer devant, tant qu'à faire, avec tous ceux de la cohorte lycéenne. Demain, 13h à la République.
Fillon!
Faut mettre une bonne équipe derrière, parce que tu
dois
leur pousser pour qu'il y ait des gens derrière qui poussent.
Vers des chaînes, partout.
Vas-y.
Dans le cortège.
La chaîne, elle est où? La chaîne?
Sabrina, regarde, elle a pas des super beaux yeux, la dame.
Super.
Ah, elle est super belle. Arrange-moi un coup.
Mais hier, j'ai cru que c'était lycéenne.
Toi, t'es au lycée Nobel aussi.
Hein?
T'es au lycée Nobel aussi?
Non, je suis pas à Nobel. J'aurais bien aimé être à Nobel, mais je suis à Drancy.
T'es à Drancy, hein?
J'habite à Clichy-sous-Bois, mais je suis à Drancy. Vu que ma filière, elle y est pas à Nobel. Donc, je suis parti jusqu'à Drancy pour aller faire ma filière.
C'est quoi ta filière?
Easy. Oui. Initiation aux sciences ingénieurs.
Pourquoi ils font un service d'ordre?
Parce qu'il y a eu à chaque fois ça a dégénéré.
8 avril 2005.
Donc là, on met un service d'ordre pour calmer la scène.
Dis-moi, Sabrina, c'est qui pour vous?
Sabrina, c'est la leader de Nobel à Clichy-sous-Bois, un lycée.
C'est le boss, quoi.
Voilà. Exactement. Il y a même des CRS qui nous ont dit ça, ils nous ont fait mener par une femme et tout. Mais on sait que c'est elle qui parle en tout cas. Depuis le début, il n'y a jamais eu de dérapage avec elle, on a toujours été calme, elle nous a calmés à chaque fois qu'on a failli s'embrouiller. Ah, j'avais un problème, c'est elle qui nous a toujours calmé l'histoire chez nous.
Comment elle a d'autorité comme ça sur vous? C'est parce qu'elle est...
Ah là, c'est la plus vieille d'entre nous, c'est la doyenne. Oh, elle a 18 ans, il y en a qui ont 19 ans, mais c'est quand même elle, la doyenne. Tous ceux que vous pouvez trouver ici qui sont de Nobel, on se connaît depuis qu'on est tout petits. On a tous vécu à Clichy et Montfermeil. Moi, je suis marocain d'origine.
Tes parents, sont arrivés là-bas quand?
Moi, mon père, il est arrivé ici en 72. J'étais pas encore né. Il y a 5 cités à Clichy-sous-Bois. Il y en a une où il y a les 3/4 c'est des Noirs, l'autre où les 3/4 c'est des Arabes. Il y a un bâtiment où il y a que des Turcs.
C'est pas du tout mélangé.
Non, je sais pas si le maire il a fait ça exprès, mais c'est comme ça. Mais quand même, on est tous ensemble. Vous pouvez aller dans une mosquée, vu que les 3/4 des riverains de là-bas sont musulmans. Vous pouvez aller aux mosquées, il y a les Turcs avec les Turcs qui font la prière avec les Noirs, qui font la prière avec les Arabes. Comme le père, on va dire, mon père, il parle pas très bien français. Mais on peut le voir, les 3/4 du temps que je le vois, il est avec des Arabes. Mais ça se peut que des fois, il est avec des Noirs, des Pakistanais, et ainsi de suite.
Des fois, la question, elle se pose même pas, quoi.
Pas du tout. J'ai déjà été un mois en vacances en Mali. J'ai été avec des copains. Directement. On change pas.
Un brassage républicain.
Voilà. Une fois, on va en Turquie. Une autre fois, ils viennent au Maroc. On va à Bamako. On change à chaque fois. On va voir la vie des autres. On change à tout.
Pourquoi tu les appelles, toi? Arrête de la chaîne, mes frères. Eh ben, tu iras les voir après.
Vous avez vu, madame?
Faute professionnelle.
Hein?
Allez, on
est professionnelle, direz. D'accord, excuse-moi. Allez, Sabrina, je ne recommencerai plus.
Bon, allez, on y go.
Mais Sabrina, vous avez vu, elle se débrouille toujours à couler.
Elle est belle comme tout, elle est gentille comme tout.
Elle est belle, hein?
Elle est super belle, mais pas aucune, autant que vous.
Aucune hésitation.
Bisous. Amène les gens là, les cales à ta puce.
Hé, mais c'est quoi ça, putain?
Bidouille.
Ça fait plus de mois qu'on lutte. Encore une fois.
Résistance.
Hé, les lycéens, vous êtes là?
Ouais.
Hé, attendez, avant de faire des slogans, vous savez, la semaine dernière, quand on était en train de bloquer les lycées, se mobiliser, ouais. Vous savez, il est où, François Fillon?
Moi, je vais vous le dire, ma soeur, elle était à Djerba, elle l'a vu en Tunisie. Et on était en Tunisie, il est en train de bronzer. C'est inadmissible.
Et ça,
et bien, non à la réforme. Non à la réforme.
C'est Pauline de Nanterre là, qui est sur le chariot, sur le petit camion et qui chauffe un peu les gens.
Qui les motive, on va dire.
Voilà.
Tous ensemble, tous ensemble. Tous
ensemble, tous ensemble. Ça va mettre du feu là, regardez bien. Tout le monde court. Regardez. C'est de la musique pour noir maintenant.
Ah, il y a la musique pour les robots,
c'est
pour
non, c'est pour faire monter tout le monde, c'est pour faire chauffer tout le monde. J'arrive dans mes nuages, c'est pour faire chauffer les noirs. Ah, ils vont mettre du métal. Là normalement c'est le métal. Après.
Quoi?
Après ça va être le métal.
Chacun sa musique quoi.
Voilà. Parce que tout le monde n'aime pas tout.
Donc t'as vu qu'il y a plus de 200 personnes.
On attend Midou et Whisky. Tout le cortège je l'ai parti.
Mais bon. Elle s'est pas restée, mais j'ai moins, j'ai commencé à venir.
Ah, vas-y.
Bah, tu veux pas travailler, hein.
Je t'ai pas dit hier ce qu'on avait parti faire, à Paris. Je t'ai pas dit la loi contre Fillon.
Ah,
qui
si.
Veulent enlever les écoles maternelles, les bourses pour ceux qui travaillent mal.
Si, si, tu
alors,
dit.
T'as dit, tu t'en rappelles plus, je t'ai dit, pas, ils vont dire, t'as un grand-père, il te dit rien. Toi, tu vas voir la musique, moi, tiens.
Je rigole.
Le 9-3, c'est violence, drogue, tournante, communautarisme. On connaît les thèmes fréquents présentés dans les reportages, dans les médias sur le 9-3. Et ben là, disons que ça change un petit peu. Retour sur ce printemps lycéen à Clichy-sous-Bois, où au lendemain de la manif du 8, on retrouve avec Olivia toute la bande au McDo du coin.
Sabrina, des fois, je joue la patronne, mais c'est trop ça.
Mais c'est la patronne, rigole, non
rigole. Non, Sabrina, c'est une fille bien.
Elle, on la soutient parce que ce qu'elle a dit, c'est vrai. Elle est fraîche quand même.
En fait, moi, ce qui s'est passé, il y a eu des rumeurs qu'on sortait ensemble.
Après, je vous pose une question, madame.
Vous voyez, je l'ai connu. Je l'ai connu grâce à la manif, la première manif. Et on est restés amis, elle m'appelait Ninja avant. Ouais, parce que je mettais les bandanas non, à la réponse Fillon et tout. Et... franchement, non, c'est comme ma soeur maintenant. Moi, je pense pas pour être son petit ami. Ce qui s'est passé, c'est que on a une assemblée générale le mercredi, c'était à 5h30, je m'en rappelle, à l'amphithéâtre. Je suis venu et j'ai vu Sabrina parler et tout. Et ça m'a intéressé de rester avec eux. Et depuis ce temps-là, je suis avec eux et Sabrina, c'est devenue une amie extraordinaire.
Une fois que la mobilisation lycéenne sera terminée, parce que la loi aura été retirée ou parce que vous aurez été fatigué, tu penses que toi, ton engagement, il va se transformer d'une manière ou d'une autre, dans un parti ou dans un syndicat ou...
Franchement, cette question, c'est trop chaud pour moi. Difficile à répondre, moi, le syndicat, je comprends rien encore.
Il y en a qui disent que vous êtes un peu des communistes, là. Ça vous fait quoi, ce mot communiste?
Franchement, pour être communiste, bah... je sais pas, moi je sais pas.
Si on me traite de communiste parce qu'on a des idées, je vois pas ce qui est.
Obligé de me traiter communiste, on va pas dire ouais, on est pour le Front National quand même.
Non, mais vous êtes contre l'UMP aussi donc.
Contre l'UMP aussi, oui, mais bien sûr.
Contre personne. Moi je défends mes droits. Je suis ni communiste, ni UMPiste, ni le péniste.
Non, moi j'ai pas. Je choisis pas genre comme ils ont dit communiste. Pour moi c'est ni péjoratif, ni amélioratif.
Amélioratif, pas amélioratif.
Vas-y, c'est bon que j'en parle. D'où ils nous sortent qu'on est communiste ou ces choses-là, juste parce qu'on défend nos idées. C'est ça que je comprends pas.
On n'est pas des produits en supermarché qu'on étiquette. Hein. Nous, on est des gens, on n'est pas de la viande, on n'est rien du tout. On est là, on soutient notre cause. Notre cause, c'est quoi? Que quand les gens travaillent dur pour avoir notre bac. Nous, on veut que quand on a notre bac, il nous sert à quelque chose. C'est pas on a notre bac, on le range à la poubelle et on va faire le trottoir. Non, on veut pas ça, nous.
Franchement, c'est la grève qui m'a fait connaître tous ces amis. Avant, ouais, là, on a remarqué qu'on était cousins, ça fait 2 semaines. On savait même pas. Avant je le détestais parce qu'il parlait lourd, il parlait. Ben Midou avant je le prenais toujours pour un mec casseur et tout. Aussi. Mais après dans les manifs on s'est connus, ben on est devenus super amis.
Comme on dit une petite expression de Nassim, si tu regardes pas vers le ciel, ton cœur ne pourra jamais trop voir le bonheur.
Ça c'est Nassim Sharif.
Sabrina, tous les Lascars sont partis, on était tous les deux. Tu te retrouves un peu dans ce que tu dis?
Bah, finalement, faire des blocus, bah, c'était pas si mal parce qu'après ça nous permettait de nous réunir et tout ce qu'on disait dans le mégaphone, tous les discours qu'on tenait, ça rentrait dans la tête de certaines personnes auxquelles on s'attendrait le moins. Par tout ce qu'on a fait, les grèves, les blocus, etc., je pense que ça leur a fait un bon apprentissage de ce que c'était un peu la vie, la société, etc., et qu'ils ont vu comment on s'organisait. Maintenant, je suis sûre que par exemple, je sais pas où est-ce qu'ils vont finir, dans quelle société ils vont travailler dans une société ou quoi, mais s'ils ont un problème, je pense qu'ils seront capables maintenant de s'organiser, ils repenseront à ce qu'ils avaient fait quand ils étaient lycéens.
Toi, ton engagement lycéen, tu penses qu'il peut se traduire et se changer en engagement politique un jour ou l'autre?
Bien sûr, mais il est déjà pratiquement.
Tu irais vers quoi plutôt?
L'extrême gauche. Pourquoi? Je suis avec ceux qui luttent, ils sont avec ceux quoi, voilà. Socialistes. Je trouve trop démagos. L'extrême gauche? Je pense pas, ils défendent le droit des ouvriers. Je finirai peut-être pas à l'usine à serrer des boulons, mais. Enfin, en fait, je vois pas, voilà, quand Raoul, tu m'as sorti ça, le communiste. Je vois pas en quoi on devrait rougir d'être communiste, on devrait même pas en avoir honte, ça doit être une fierté. C'est comme par exemple, il y a ceux d'ici qui ont honte de dire qu'ils habitent à Clichy-sous-Bois, genre ouais, la honte, on est la 4e ville la plus pauvre de France, etc. Mais on n'a pas en avoir honte, c'est comme le fait d'être communiste. Dans le fond, à partir du moment où on lutte, on est forcément un petit peu communiste, quoi. Si on veut pas, à partir du moment où on veut pas se laisser écraser, bah on est qualifié de communiste, bah tant pis alors. Ceux qui sont morts, c'est à cause des staliniens. Moi, je fais bien une différence entre le communisme et le stalinisme. Maintenant, en bas des cités, pendant un moment, c'était toujours les communistes qui allaient faire le porte-à-porte. Et à mon grand regret, ils ont été remplacés par les témoins de Jéhovah ou les frères Muses. Voilà.
Tu vois la différence entre les ouvrières et la LFR?
Bah, je sais qu'il y a un débat qui les opposait pas mal, c'était... celui qui concernait le port du foulard. Lutte ouvrière était contre et la LCR était pour. Donc là, tu vas me demander ce que j'en pense, non? Ouais.
J'imagine, oui.
Oui. N'importe ce qui est du foulard, par exemple, je rejoignais lutte ouvrière et j'étais contre. Non, je ne suis pas. J'ai pas ma carte au PCF, ni à la Ligue, ni à lutte ouvrière. J'ai forcément une petite attirance pour LO, mais. Je suis pas non plus une abonnée là-bas.
Et pourquoi pas plutôt SOS Racisme ou Ni Pute Ni Soumise ou une association comme ça?
Maintenant, SOS Racisme, voilà, se fait rattraper par le PS. Ils nous ont mis le grappin dessus et justement, eux, ils ont perdu leur indépendance sur ce point-là. Donc SOS Racisme, hors de question. Brigade Ni Pute Ni Soumise, j'ai aussi peur, d'ailleurs, qu'ils perdent leur indépendance. Bon, ma grande sœur à la fac de Créteil. Dans cette fac, elle est copine avec Kaina, ma grande sœur de Sohan qui s'est faite brûler dans une cité. Et bon, elle disait qu'en fait, les filles d'une pute insoumise, c'était un peu trop des filles qui avaient profité du malheur des gens pour se faire leur petite célébrité à elle. Et finalement, en y repensant bien, en bas des cités, finalement, elles n'agissent pas. Tu me parlais des communes justement qui n'étaient pas trop là. Bah, moi, j'ai jamais vu une pute insoumise à Clichy-sous-Bois non plus. Donc, je ne me considère pas comme une pute. Deuxièmement, je suis pas non plus soumise et pourtant j'ai pas de grand frère, etc. Donc non, et voilà, c'est pas soit pute, soit soumise. Il y a d'autres alternatives. Quoi, faut savoir imposer le respect. Et, bah, j'ai posé mes limites. Je rigole avec plein de garçons, je m'entends bien avec eux, mais ça c'est depuis que je suis petite. Dans ma cité, je jouais au foot avec les garçons plutôt qu'avec les filles. L'élastique, ça, je jouais à l'élastique et à la sauterelle, quoi. Ça m'amusait pas trop. Pas des sauvages non plus, c'est un peu trop cliché ça, de les filles entre filles, les garçons entre garçons, c'est pas vrai, on peut aller parler avec les garçons et rigoler avec eux. Bah c'est pas du tout ça, hein. Comme bien vu, c'est le Nobel, ils font leur caïd, mais c'est des gros agneaux en fait, c'est pas des gros méchants, donc il n'y a pas de... Après c'est des préjugés, tout le monde en a, et il y en a partout, et savoir les prendre tout simplement.
Voilà, merci. C'était Sabrina, 18 ans, qui parlait. Merci aussi à Pauline, à Hichem, à Taifoun, à Nassim, à Bidoun et à tous. C'était un reportage d'Olivier Gesbert. Les informations sont disponibles sur le site de France Inter, la rubrique émission Là-bas, si j'y suis. Technique aujourd'hui, Alain Arnstam et Jean-Philippe Jeanne. L'équipe de Là-bas, si j'y suis. Antoine Chao, Yann Chouquet, Raphaël Mouterde, Pascal Le Pascariello et Christophe Imbert. Le numéro du répondeur 01 56 40 37 37. Le mail daniel.mermet@radiofrance.com. On se retrouve demain à 17h pour Là-bas, si j'y suis. Dans quelques secondes, vous retrouvez Frédéric Bonneau et son charivari. Salut.